Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. L'humilité et la grandeur du Christ, au nom de Jésus. Votre foi au Christ vous rend-elle plus fort? Son amour vous encourage-t-il? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors je vous le demande, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller. Mais soyez humbles les uns à l'égard des autres et que chacun considère les autres comme supérieurs à lui-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais pensez chacun à celui des autres. Ayez entre vous des sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine. Mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est le plus important que tout autre nom, afin que par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Comme vous le savez tous, dans notre paroisse, nous suivons le lectionnaire œcuménique. Ce qui est prévu pour aujourd'hui dans le lectionnaire change un peu, il y a deux textes proposés par le lectionnaire pour la seconde lecture. La première, celle de Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5, et la deuxième lecture, Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Vous avez compris, l'autre est plus courte, l'autre est plus longue. Et quand on tombe dans ce genre de proposition, le lectionnaire laisse au prédicateur de faire le choix, ce qui le convient. Et je ne vous cache pas, j'ai été tenté de choisir la plus courte pour me faciliter la tâche. Mais quand je me suis lancé dans la préparation et la lecture plus approfondie, je me suis rendu compte qu'il me fallait absolument se rabattre sur la plus longue, car elle est plus complète, et surtout, dans la première, personnellement, dans ma lecture, on s'orienterait trop facilement vers un discours moral, moralisateur. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tandis que dans la plus longue, j'avais dit qu'elle est plus complète, car l'auteur nous invite d'abord à fixer le regard sur le Christ d'abord. Qui est le Christ? Comment il s'est comporté? Et après, réfléchir ce que nous allions faire par la suite. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse différence. La ligne théologique que nous suivons dans la lecture biblique, ici dans notre communauté, est tout d'abord christologique. avant d'être anthropologique, c'est-à-dire l'être humain. Regard vers le Christ, non pas vers l'homme, puisque si on commence à regarder l'homme, nous ne pourrons jamais voir le Christ. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse en premier, c'est de savoir ce que Dieu a fait ou ce que le Christ a fait pour nous, et par la suite de savoir qu'est-ce que je vais faire alors pour lui en retour. Ceux qui ont suivi la prédication du dimanche passé, la grande ligne de la méditation de la semaine passée, mettait en exergue que grâce à Christ, l'humain, rappelez-vous ceux qui suivaient la prédication, dorénavant nous pouvons côtoyer le divin. On avait dit que le ciel rejoint la terre, etc., etc. À le texte que nous avons aujourd'hui, entre un peu plus en profondeur sur la façon dont comment cela va se réaliser. Comment l'humain peut côtoyer le divin. Nous avons dit la fois passée que le ciel s'est penché vers la terre. Et ici, concrètement, Paul explique que non seulement le ciel s'est penché, mais il y a encore plus grave, le Fils de Dieu s'est vidé de sa substance divine. Le Fils de Dieu s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave. C'est plus grave à entendre. Est-ce que vous imaginez l'ampleur et la gravité de cette phrase de Paul ? Je reprends au verset 7. Le Fils de Dieu s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave. Et je préfère ce mot esclave que serviteur, parce que l'esclave en grec, c'est le doulos, celui qui a perdu tous ses droits. Est-ce que cette phrase ne vous choque-t-il pas? Ou est-ce que parce que vous êtes déjà acquis à la cause chrétienne, que cette phrase passe facilement dans vos oreilles? Mais honnêtement et objectivement, c'est assez déstabilisant d'entendre cela. D'entendre qu'un Dieu puisse se vider de lui-même. En principe, dans toutes les différentes légendes de religion, on racontait dans les guerres que chaque royaume, chaque nation voulait renforcer la force de leur Dieu. Tout le monde voulait mettre leur Dieu au plus haut de tous les autres dieux. Mon Dieu est le plus fort que votre Dieu. Or, le nôtre, il fait le contraire. Il s'est vidé. Je tiens à signaler qu'il faut manier avec beaucoup de délicatesse ce texte de Paul pour ne pas tomber, bien sûr, dans une erreur grave. Si Paul dit « il s'est vidé », la question qui s'impose est la suivante. Il s'est vidé de quoi? Et si nous lisons les versets 6 et 7, il semble que Jésus, je dis bien il semble que Jésus, aurait abandonné ou laissé son titre de Dieu qui lui faisait égal au Père. S'il s'est dit qu'il s'est abaissé. Et là, le danger dans cette ligne d'idées, c'est pour cela que les témoins de Jéhovah auraient raison que finalement Jésus n'a pas la même substance que le Père. Autrement dit, quand on fait un débat avec un témoin de Jéhovah, au départ ils te disent « Jésus n'est pas Dieu », mais quand ils sont à bout d'argumentation, ils acceptent quand même que Jésus est Dieu, mais pas au même niveau que le Père, un peu plus bas que le Père. Et c'est encore une hérésie. Et si cette phrase de Paul est encore mal comprise, nous pourrions aller aussi dans la compréhension des musulmans. sur le Christ. Qu'il aurait, dans la croyance musulmane, Jésus aurait juste reçu une force surnaturelle du Père pour effectuer les missions, les miracles que Dieu lui avait confiés. Et une fois qu'il a accompli tous les miracles que Dieu lui a demandé de faire, Dieu a enlevé son esprit et il est redevenu être humain. C'est pour cela qu'il a été crucifié à la croix. Voilà la lecture musulmane sur la mort du Christ. Et donc celui qui était crucifié et mort à la croix ne serait qu'un être humain, mais plus un Dieu. Parce qu'un Dieu ne peut pas mourir. C'est logique. Et c'est là que ça montre toute la complexité de ce mystère de la croix, chers amis. C'est pour cela que la croix est scandale pour le monde. Pourquoi j'évoque ces différents points de vue? C'est pour nous faire vraiment réfléchir sur le mystère et à la fois la richesse de l'incarnation du Christ. Quoi qu'il en soit, objectivement parlant, il y aura toujours une question très importante qui se met en valeur dans ce débat. Jusqu'où se limite la kénose, c'est-à-dire le Christ qui s'est vidé? Jusqu'où le Christ est allé? Je vous dis, le Christ est allé vers la limite qu'on ne peut accepter. Je me rappelle encore un grand débat que nous avons eu quand j'étais encore étudiant au séminaire pastoral. Et j'avais lancé une discussion avec mon prof de dogmatique. Quand Jésus a été crucifié et qu'il mourait à la croix, j'ai posé la question, quelle partie de lui qui est mort, cher prof? Est-ce l'être humain qui était là, qui agonisait? Alors, si c'est le cas, alors on séparerait les deux natures du Christ, humain et divin, ce qui est impensable. Pourquoi je dis cela? Parce que si seulement sa nature humaine qui était morte, alors on peut imaginer que sa nature divine pouvait lui donner un coup de main pour supporter la douleur. Vous imaginez? Ou bien encore plus grave, le Christ n'aurait pas vraiment souffert à la croix, il aurait fait semblant de crier. Il vous dit « aïe, aïe, aïe », mais il n'avait même pas mal. Puisque c'est juste l'humain qui a souffert, et le côté divin, alors qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Et par la suite, puisqu'il est Dieu, il aurait fait semblant de mourir pendant 3 jours. Il attendait juste les 3 jours dans le tombeau, après il sortait. Ce qui dérange la plupart des gens, c'est cette idée qu'un Dieu puisse mourir. Or, c'est là la force de l'Évangile. Un Dieu peut-il mourir? Normalement, non. Seul le nôtre l'a fait. Vous pouvez fouiller toutes les archives, tous les documents religieux. Seul le Dieu des chrétiens qui a osé goûter à la mort. Oui, Dieu est mort à la croix. Il faut le dire. Il ne faut pas arranger les choses. Même si ça dérange, c'est la réalité. Dieu est mort à la croix. Comme dit Moltmann, Dieu crucifié. Mais si nous proclamons dans la confession de foi que Jésus est mort et qu'il a ressuscité le 3e jour, c'est qu'il a été réellement mort. Et moi, je vous le dis, il ne faut pas avoir peur ni avoir honte de dire « Oui, Jésus est mort et est ressuscité. » Voilà le sens, il s'est vidé, il a goûté à la mort. Le mot « mort » n'existe pas dans le vocabulaire du ciel, mais notre Dieu l'a goûté. J'ai bien aimé une prière de mon prof. À chaque fois qu'il commençait ses cours, j'ai pris même note. « Ô Seigneur, que je t'aime tant, tu as osé mourir pour moi. » À chaque fois, je remarquais quand on recommence un cours, il dit toujours cette prière. Je dis, mais il y a quelque chose derrière. Tu as osé mourir pour moi. Nous, on n'ose pas mourir, nous, on doit mourir. Puisque nous sommes des êtres humains. Mais lui, il a osé mourir. Il a appris ce que c'est que mourir, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'avais déjà prêché un dimanche que lorsque Dieu se retire, ce n'est pas comme nous qui laissons un vide autour de nous quand on se retire d'un lieu ou d'un endroit, mais ce Dieu qui s'est vidé, c'est un Dieu qui laisse un espace à l'autre, qui permet que l'autre puisse exister, puisse s'épanouir. Jésus a quitté sa place d'honneur à la droite du Père afin que nous puissions entrer dans ce cercle restreint. Donc, il se retire pour donner de la place. Et sa mort a permis que nous retrouvions la vie. Jean chapitre 12, verset 32. Et moi, écoutez bien cette phrase de Jean, de Jésus dans l'évangile de Jean, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. C'est une phrase intéressante. Quand je serai élevé, quand est-ce que le Christ a été élevé? À la croix. Et pour Jean, quand Jésus a été élevé à la croix, cette élévation à la croix est une main qui nous a retirés des séjours des morts. Sa mort a donné la vie. Et regardez bien cette phrase, elle est très belle. Jésus qui se considère comme étant élevé à la croix, mais pas élevé à la droite du Père. À la croix qu'il a été élevé. Et cette expression est à la limite une expression qui parle de gloire quand on parle de quelqu'un qui a été élevé. Et donc pour lui, l'élévation, c'est sa mort. Sa mort à la croix est la glorification de Dieu. Parce que l'homme a été attiré des séjours des morts et de l'emprise de la mort. Un autre exemple dans Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi, je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il était nécessaire que le Christ abandonne ses disciples pour que le Saint-Esprit puisse arriver. Vous voyez, quand Dieu laisse un espace, il donne quelque chose pour l'être humain. Bref, à partir de là, nous pouvons alors construire à nous aujourd'hui notre éthique sur l'humilité chrétienne. Nous nous inspirons de cette humilité que Dieu a, se retirer pour que l'autre puisse vivre, se retirer pour que l'autre puisse s'épanouir. Souvent, ce que le monde avance comme humilité se cache toujours une fausse modestie. Et paraît-il, nous les bons protestants, on est un peu dans ce style-là. Les bons protestants, toujours modeste, sobre. Mais est-ce une vraie humilité? L'humilité chrétienne doit faire partie de notre ADN, puisque c'est le Christ qui était humble à la croix. Ce n'est pas un caractère, ce n'est pas une qualité morale, c'est notre ADN. Ce n'est pas du tout une vertu en plus. Parce que dans l'humilité, il y a la notion de l'amour du prochain. Tu t'effaces pour que l'autre puisse vivre. Ton effacement ou ton retrait favorise l'épanouissement de ton prochain. Or, vous savez tous très bien, dans la société où nous vivons, c'est tout à fait le contraire. Si tu veux réussir, il faut écraser l'autre. Si tu veux réussir, tu dois marcher sur ton voisin, ton collègue. Pour avoir la promotion, le poste que tu désires, tu dois tricher, tu dois écraser. Or, le Christ dit, si tu veux réussir, retire-toi. C'est complètement différent de la logique humaine. Le fait que le Christ s'est abaissé vers nous, grâce à ça, dit Paul, il a été élevé au-dessus de tout être humain. Et son humilité a permis que toi et moi, nous avons été relevés de la boue. Et que tout genou fléchisse devant ce nom qui a été humilié. C'est ce que dit le psalmiste, et je termine là-dessus. Qui est semblable au Seigneur, notre Dieu? Il est assis très haut, il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il élève le pauvre pour les faire asseoir avec les notables, avec les nobles de son peuple. Vous imaginez la scène qui nous attend plus tard, être autour de la table de ce Dieu grand, majestueux, toi qui n'es que poussière. Tu peux entrer dans ce cercle restreint des divins, servi par les anges. Même les anges t'envient. Vous savez que les anges nous envient. Comment se fait-il que Dieu aime ces êtres humains? Nous, on le sert du matin au soir. Ils chantent, ils font tout. Aucun, dit dans l'Hébreu, chapitre 1, je crois, verset 5, aucun n'a reçu le mot magique, mon fils. Pourtant, toi, le fils bien-aimé, la fille bien-aimée, es-tu consciente de ta place? Tu es l'héritier du trône. Ne l'oublie jamais. Amen.